Merhaba arkadaşlar, moi c'est Linda. Et si comme moi vous êtes adepte des séries turques, ce podcast est fait pour vous. Dans ce podcast, nous allons traiter de toute l'actu autour de nos 10 préférés, de reviews ou encore des performances magistrales de nos acteurs favoris. Tout y est pour apprécier un cinéma encore trop méconnu. Alors, préparez-vous un chai et plongez dans l'univers d'Easy Wood. Merhaba arkadaşlar, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans ce premier épisode de Dizzy Wood. Comme je l'ai dit dans l'intro, moi c'est Linda et je suis une fan inconditionnelle de séries turques qu'on appelle communément les Dizzy. Il faut savoir que j'en consomme depuis une douzaine d'années et je peux m'auto-proclamer à ce stade experte en la matière. Bon, trêve de plaisanterie. C'est la raison pour laquelle en fait j'ai décidé de lancer ce podcast, c'est justement de pouvoir discuter. Enfin là c'est certainement un monologue, mais je me suis dit que ce serait cool de discuter avec vous de cette passion commune que sont les séries turques et plus profondément et de manière globale le cinéma. Alors pour ce premier épisode j'avais préparé une toute autre thématique et puis on est lundi et qui dit lundi dit série fantastique. Enfin, pas dans le genre, mais série dans... Elle est dans l'absolu, elle est magnifique. Voilà, elle est fantastique dans ce sens-là. Et c'est une série, pour moi, qui réunit pas mal d'éléments. Enfin, de par son suspense, de par les secrets dévoilés, de par son mystère, de par l'action et de son scénario. Enfin, je vais arrêter avec le suspense à deux francs. Il s'agit tout simplement de Maraşlı. Maraşlı, c'est une série, pour moi, qui à chaque fragment, me laisse estomaquer, tout simplement. Quand je dis fragment, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, il s'agit en fait des bandes-annonces avant chaque épisode qui sont diffusées tout au long de la semaine. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de Maraşlı. Et désolée, hein, mais je ne vais pas être objective dans ce podcast parce que pour moi, en 12 ans d'expérience de visionnage de Dizzy, je pense que c'est l'une des meilleures jamais réalisées, sans exagération. Alors, je sais que je vous ai vendu un petit peu le truc avant de vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, Maraşlı, au niveau du synopsis, ben, c'est tout simple en fait. C'est l'histoire de Celal Kün, dont le surnom est Maraşlı. Un jour, en fait, il se rend à la kermesse avec sa fille, une petite fille qui doit avoir plus ou moins, je dirais, 8 ans. Ce jour-là, en fait, il y a lieu un attentat, une fusillade, je dirais même. Et sa fille est grièvement blessée. Et en fait, la vie de Maraşlı va basculer ce jour-là parce que sa fille, en fait, elle va tomber dans un profond mutisme de par son traumatisme, en fait. Donc, elle a survécu à l'attaque, même si elle a été grièvement blessée. Mais voilà, elle est traumatisée psychologiquement. Donc, là aussi, c'est une autre blessure d'un ordre beaucoup plus psychologique et profond. Voilà. Donc, un an plus tard, Maraşlı devient libraire. Et un beau jour, une jeune ravissante jeune femme, qui répond au prénom de Mahur, ben, rentre dans sa librairie pour un livre qu'elle cherchait en particulier, donc un livre de poésie. Et elle en profite justement pour demander où se trouve le chemin d'une usine. Donc il faut savoir que Mahur est photographe, et justement ben, elle essaie de dénicher quelques lieux pour ses futurs shootings. Donc Maraşlı lui montre le chemin, très rapidement, et il s'avère que donc, Mahur... Sur les lieux, elle est témoin d'un meurtre. D'un meurtre et pas n'importe quel meurtre. En fait, il s'agira du meurtre du procureur qui s'avère être le procureur qui enquêtait. Paranana. Attendez, ça c'était... Le paranana, c'était des roulements de tambour, hein, excusez-moi. Donc, le procureur, en fait, était celui qui enquêtait sur la fusillade où la fille de Maraşlı a été grièvement blessée un an auparavant. Voilà, donc... On a une sorte de cercle. Peut-on dire que c'est le hasard? Peut-on dire autre chose? Je laisse le suspense et la porte ouverte sans aucun spoil. Donc voilà, ça c'est par rapport au synopsis. Pour moi en fait, Maraşlı représente en fait pour moi une série qui sort totalement de l'ordinaire, hein, de par sa trame scénaristique, la manière de filmer, les plans visuels, etc. etc. On n'est pas dans un scénario cliché déjà, et certainement pas dans un scénario linéaire. Au fur et à mesure des épisodes, on voit que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a plusieurs couches, je dirais même, de mystères à résoudre. C'est pas... Voilà. C'est pour moi, franchement, je pense que vous l'avez compris. Pour moi, c'est le feu, cette série. Et c'est vraiment une série à suivre tous les lundis à 20h sur ATV. Et voilà. Oui, je suis sans aucun mot. C'est parce que, en fait, comme je vous ai dit, chaque fragment nous laisse estomaquer parce qu'on a l'impression d'arriver au bout d'un truc. Et j'ai l'impression, limite, que le scénario de Maraşlı, c'est un petit peu le plan de Prison Break, le plan d'évasion du gars qui devait sortir, j'ai oublié son nom, de sa prison. C'est tellement compliqué et tout. Enfin, c'est pas compliqué, hein, vous me direz. Mais il faut s'accrocher, faut s'accrocher. Alors, par rapport au niveau des acteurs en tête d'affiche, on a Burak Deniz et Alina Boz. Donc, Burak Deniz, lui, un acteur turc, hein, des plus connus. Souvent connu pour des comédies d'amour. Burak Deniz, je pense qu'il a 30 ans actuellement. Donc, il a été à la tête d'affiche de H. Clafton Anlamaz avec Hande Erçel il y a quelques années, hein, je pense, je dirais même 6 ans. Il y a 2-3 ans, il avait aussi joué dans Bizim Hikaye avec Hazal Kaya. Et on avait l'habitude, comme je vous l'ai dit, qu'il joue dans des séries très romantiques, très clichés. Oh là là, le gars riche, ou bien le gars riche qui tombe amoureux d'une pauvre fille, ou bien le contraire, etc., etc. Voilà. On avait l'habitude de le voir jouer dans ce genre de jeu, excusez-moi, de série. Mais dernièrement, il a joué dans une autre série qui n'était pas diffusée à la télévision sur les chaînes turques, mais plutôt sur une chaîne online, une sorte de Netflix turque. Attendez, de Netflix turc, Blue TV, et il avait joué dans Yarim Kalan Ashklar avec Dylan Çiçek Deniz. Et en fait, il avait joué le rôle de Kadir qui se retrouvait dans d'un ancien commissaire. Un rôle totalement qui sortait complètement de ce qu'il avait l'habitude de faire. Une sorte d'anti-héros complètement à la ramasse, drogué, etc. Et c'était totalement. Franchement, c'était chouette à voir parce que il a été d'une performance incroyable et son jeu dans Maraşlı vient justement confirmer que c'est un acteur avec beaucoup d'avenir, avec un jeu très prometteur et qui arrive à jouer des rôles aussi divers. Ça, c'est pour Burak Deniz. Par rapport à Alina Boz, donc elle est âgée de 22 ans, elle est aussi turco-russe, oui, donc elle n'est pas complètement turque, donc elle est bilingue, hein, turque, je dirais trilingue avec l'anglais, donc elle est turco-russe, et moi je l'avais découverte il y a 4 ans dans Paramparça. Paramparça, en fait la particularité du turc c'est qu'il faut bien articuler, donc Paramparça, et je l'avais découvert dans son rôle où elle avait joué le rôle de Hazal, une petite pimbèche, hein, faut dire ce qu'il y a, une petite peste comme ça, je l'avais pas aimé, je me souviens que j'avais pas aimé son rôle, et quelques années plus tard, je pense il y a 2 ans je dirais, elle avait joué aussi dans Elimi Bırakma, là elle était beaucoup plus, ça c'était un rôle beaucoup plus soft, hein, la gentille petite Azra qui a besoin d'aide et qui arrive à... voilà. C'était quand même assez intéressant. Ça s'était diffusé sur TRT, la chaîne nationale turque. Hein. Ça s'est diffusé pendant 1 an et demi. Et puis, dernièrement, elle avait joué sur une série qui est diffusée actuellement sur Netflix dans HQ'sbir. Prononçons le truc à la francophone, je dirais HQ101, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour les acteurs principaux. Maraşlı, il faut savoir qu'il y a c'est une série qui ne tourne pas autour seulement des deux personnages principaux, des protagonistes. Il y a effectivement, donc on a Maraşlı. Donc il y a Maraşlı forcément. Burak Deniz, comme je vous l'ai dit, il performe très bien ce rôle-là. Son jeu d'acteur est excellent. Celal Kün, oui, donc comme je vous l'ai dit, hein, Maraşlı, c'est le surnom de Celal Kün, qui est en fait un ancien militaire. Et c'est un père qui est assez meurtri par non seulement ce qu'il a pu voir au combat dans sa jeunesse, mais également très très meurtri par le traumatisme de sa fille, qui au final n'est qu'une enfant innocente qui a pu survivre à une telle attaque. Et c'est quelqu'un, Celal Kün, qui est très expressif, enfin qui n'est pas du tout expressif et qui est très stoïque. Mais bizarrement et paradoxalement, c'est quelqu'un qui arrive avec le regard et avec le peu de paroles qu'il dit à exprimer pas mal de choses. Que ce soit dans le regard ou dans... En fait, c'est le genre de personnage qui va parler, qui va pas parler pour rien dire comme moi là à l'instant, mais qui va plutôt parler pour dire des choses intéressantes. C'est soit A, soit B. Il n'y a pas. Et si il y a pas quelque chose de... Il n'y a pas une blague qui va sortir de sa bouche, il n'y a rien. Tout est dans sa tête. Et tout est dans l'expression du visage. Avec lui, en fait, il faut pas rigoler, tout simplement. C'est aussi quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, Celal Kün, c'est aussi un libraire. Il apprécie énormément la poésie. Par exemple, il va pas lire des contes pour enfants, sa fille. Il va lire de la poésie. Et bon, moi, je suis très attachée à la poésie turque parce que je trouve qu'on arrive à dégager pas mal de mélancolie, en fait, dans les expressions utilisées en turc. Il y a quelque chose qui se dégage de nostalgique. Et c'est ce que j'apprécie énormément parce qu'en fait la poésie dans cette série-là, elle va avoir une place prédominante, que ce soit dans le scénario, enfin voilà, dans le scénario choisi, dans les dialogues. On va ressentir la présence philosophique de la poésie. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, ben, il y a Mahoul. Mahoul, en fait, qui est photographe et qui, malgré en fait sa carrière internationale, c'est quelqu'un qui est très meurtri aussi à l'intérieur d'elle par la perte de sa maman. Il faut savoir qu'en fait, Mahoul, elle a fait ses études à New York et pendant ses études, sa mère en fait souffrait d'un cancer à un stade très avancé. D'ailleurs, elle est décédée de ce cancer-là. Et tout ce qu'elle lui a laissé, donc déjà Mahoul n'était pas au courant, mais tout ce qu'elle lui a laissé, sa mère, c'est juste des vidéos où elle lui explique pas mal de choses, une sorte de lettre d'adieu. Ces vidéos vont aussi avoir un rôle hein, dans l'intrigue de Marachle, la série Marachle. Et on découvre aussi une Mahoul très vulnérable en fait. Quelqu'un d'assez pur en fait dans ce monde de brutes. Alors ça aussi c'est très poétique hein, ce que je viens de dire, mais c'est vraiment, elle est très à fleur de peau, et c'est ce qui fait en fait la beauté de son personnage. C'est quelqu'un de complexe et qui ne demande qu'à être rassuré en fait. À côté de ça, on a l'ennemi. Je vais pas spoiler qui fait quoi, mais on a l'ennemi en fait, Savache. Et Savache, lui, il est interprété par Saïgun Soysal. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le jeu d'acteur de Saïgun Soysal. Moi, je l'avais vu il y a, je dirais quoi, combien de temps? Ben, il y a 10 ans dans la série AC, la première fois. Et dernièrement dans Kara Para Ashk, où il avait joué justement le rôle de Metin. Son rôle-là se rapproche quand même, je dirais, du rôle qu'il a joué dans Kara Para Ashk, parce que c'est pas seulement un méchant comme tous les autres, mais c'est ce que je dirais un anti-héros. On commence à comprendre pourquoi, ce qui l'a amené à devenir méchant. Comme vous le savez, on devient jamais méchant comme ça. Il y a toujours quelque chose c'est comme une sorte d'interrupteur, je dirais. Et c'est quelque chose qui va. On va comprendre en fait que le personnage est beaucoup plus complexe que cela, ce n'est pas juste le méchant. Après, ce que j'aime dans Savage, c'est que dans l'interprétation du personnage, il y a une sorte de prestance, de charisme en fait. Vous le verrez, hein, le personnage de Savage, enfin Savage est assez élancé dans sa morphologie. On dirait un danseur de ballet. Il a même dans la manière dont il manie les armes. Il y a quelque chose, je vais encore dire de très poétique, mais c'est vraiment ça, c'est un charisme de danseur de ballet. Quand il se promène avec son parapluie, il est toujours habillé en noir parce qu'il souffre d'une maladie, il est allergique en fait à la lumière du soleil. Enfin, même dans sa démarche, il y a quelque chose de très. C'est pas son lent, c'est justement, on marque son personnage. Et il y a une sorte de message subtil, je dirais, où on va apprécier. C'est pas qu'on va apprécier, c'est que. Il se donne un plaisir à faire du mal. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais voilà, faudrait vraiment que vous jetez un œil au personnage de Savage et que vous l'analysez à votre manière. En tout cas, c'est l'interprétation que je donne. Voilà. À côté de ça, on a Nejati. Alors Nejati, c'est qui? C'est tout simplement le frère de Mahour. Il est voilà, c'est un alcoolique comme ça qui a tendance à rabâcher n'importe quoi au sein de la famille, malgré qu'il soit l'aîné et qu'on attendrait du rôle de l'aîné qu'il soit un petit peu l'exemple. Son père est assez déçu de lui. Enfin, il met aucun espoir justement à sa réussite. On dirait quelqu'un qui déambule et qui erre en fait dans les méandres de la vie. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que Nejati, en fait, même s'il sombre dans l'alcool, il a tendance à avoir en fait des dialogues avec ben, la famille. En fait, il y a une famille qui est au service de la famille de Mahour. Et cette famille-là, donc, ben, forcément, ils sont en cuisine, ils sont au petit service et tout. Et donc, Nejati a l'habitude de venir et chaque fois d'interpréter de façon très théâtrale, excusez-moi, ce qu'il a pu lire. Faut dire aussi que Nejati est un fan incontestable de tout ce qui relève du théâtre et de la poésie aussi. Hein. Donc sa chambre, vous la verrez, c'est une bibliothèque. Et pourtant, c'est paradoxal parce que ben on dirait que, enfin, il fait que boire. Et c'est assez intéressant parce que c'est un personnage qui est très mystérieux. On sait que son alcoolisme est dû à quelque chose. Bon, maintenant, moi, je le sais pourquoi. Parce que forcément, je vous ai dit, il y a une intrigue. Mais c'est assez intéressant. Il n'est pas bête, ce Nejati, en fait. Et de toute façon, on le remarque lorsqu'il discute avec cette famille. Il descend à la cuisine et, comme je vous l'ai dit, il commence à avoir de manière très théâtrale. Théâtrale, je vais pas réussir à le prononcer, ce mot. De manière très théâtrale, ben des choses de la vie. Et en fait, ça donne des indices sur les différentes intrigues du scénario. Alors, le seul point négatif, c'est que malgré le jeu d'acteur de Nejati, enfin de l'acteur qui interprète Nejati, je le trouve malgré tout trop âgé. Ouais, j'ai l'impression qu'il doit avoir 47 ans. En tout cas, je sais que La différence d'âge des acteurs de Nejati et de son père Aziz, elle n'est que de 7 ans. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus crédible à ce niveau-là, même si je ne remets en aucun cas en cause le jeu d'acteur de Nejati. Il est parfait, franchement il est parfait, et vous le verrez par la suite de toute façon. Mahour et Marachle, ce que j'ai apprécié en eux, c'est pas une simple histoire d'amour, comme on peut voir dans toutes les séries turques super clichés à l'eau de rose. Désolée, hein, je suis pas très objective quand je dis ça, mais pour moi en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus complexe, ils sont à l'opposé. On a, comme je l'ai dit, Marachle qui est très, déjà très introverti, très austère, très. Voilà, il faut pas parler avec lui. Et d'un autre, on a Mahour qui est photographe, très créative et qui aime profiter de la vie. Et ce que j'apprécie en eux, c'est que au-delà du fait qu'ils viennent de deux mondes complètement différents et que certainement l'amour va les réunir, c'est que ce que j'apprécie, c'est les dialogues. Ça me fait penser au dialogue en fait du Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Excusez-moi, parce que je suis en train de réfléchir en même temps, d'Antoine de Saint-Exupéry. Et ce que j'apprécie, c'est la simplicité des dialogues. Et en même temps, ils sont aussi simples, mais en même temps très complexes. Mahour va lui poser des questions très simples, et les réponses amenées par Marachelet, qui est poète dans l'âme, vont être déjà très to the point, mais aussi poétiques, forcément. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment prêter attention à tous les dialogues, ça nous permettra en fait de comprendre la trame scénaristique. Comme je vous l'ai dit, c'est une série qui, pour moi, elle est au-dessus. Elle est au-dessus de tout, dans toutes les révélations, dans toutes les intrigues. Et en fait, chaque épisode nous révèle son lot de surprises. Elle n'est pas filmée comme les autres séries. Et même la musique choisie n'est pas similaire aux autres. Donc par rapport au plan visuel, j'accorde une immense importance à ça en fait. C'est que vous allez voir en fait dans la série. Et c'est pour ça que je vous dis que bizarrement, la poésie, ne fût-ce dans les scénarios, ok, on a compris, Linda, allez, ça a son importance, mais même dans les plans choisis, on a beaucoup d'ombre. Et c'est très poétique parce que ça permet en fait d'ancrer les personnages dans la réalité. Et vous allez voir, hein, des fois, on a des travelling avant sur personnages, et ça va leur justement accentuer, excusez-moi, les émotions des personnages de la série. Au niveau de la colorimétrie, elle tend vers le bleu. Ça aussi, ça va accentuer en fait la froideur de la série, où on va se concentrer juste sur des faits. Parce que le but, c'est quand même de comprendre l'intrigue. C'est assez spécial. Je sais que dans la colorimétrie, en fait, vous allez voir, hein, les séries d'été turques, en général, elles sont très chaleureuses, donc la colorimétrie, elle tend vers le jaune et tout. Mais celle-ci, sa colorimétrie est vers le bleu. On va avoir des ombres, comme je vous l'ai dit, qui vont juste tracer les silhouettes des personnages, que ce soit sa vache. Que ce soit dans le premier épisode, vous allez le voir avec Mahour et Marachle, c'est très beau à voir. Au niveau de la musique, donc je suis là pour vous parce que il y a des musiques, je vais jouer le Shazam en fait. Il y a des musiques qui sont pour moi très très bien choisies. On n'est pas au-delà de la bande sonore, hein, qui donne justement l'identité sonore de la série. On a le choix des musiques à des moments phares de la série qui vont accentuer en fait les émotions. Et parmi ces musiques, j'en ai retenu trois. Et c'est pour ça que je vous dis que je vous sers de Shazam, parce que je vais vous les faire écouter, un court extrait. Donc, la première, il s'agit de Busen Değilsin de Sagopa. C'est un petit peu une sorte de rap, donc je vous laisse écouter. C'est l'une de mes préférées, sincèrement, c'est l'une de mes préférées. La deuxième, il s'agit de Kul. Celle-ci, j'aime beaucoup, elle est tellement mélancolique et elle reflète tellement l'esprit de Celal Kün, de Marachle. Elle est interprétée par Cem Adrian et au violon, on a Mark Eliyahu. Donc, je ne sais pas si Cem Adrian, je ne connaissais pas auparavant, mais pour Mark Eliyahu, c'est un violoniste assez célèbre. Je vous invite à voir un petit peu ses musiques sur YouTube. C'est assez beau à entendre. Et dernièrement, dans le huitième épisode, c'est le dernier que j'ai vu, il s'agit de Delikanlı interprété par Vincent Tesel. Donc là aussi, on est dans une autre ambiance. On avait du rap auparavant, on avait du classico-turc. J'invente des genres, hein. Du classico-turc juste avant. Et maintenant, on a une sorte de jazz acoustique comme ça qui est très, très, très agréable à écouter, hein, également. Je suis pas très objective, hein, quand je dis ça, mais c'est parce que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je les aime parce qu'elles ont accentué encore plus les émotions des scènes dans lesquelles ces musiques ont été ajoutées. Donc je vous laisse écouter à votre tour. Voilà, on finit par ces dernières notes en musique pour ce premier épisode qui a été un plaisir pour moi de tourner. C'est la première fois que je me lance dans le podcast. Vous avez bien deviné, hein, que j'étais très enthousiaste à l'idée de présenter Marachelet, qui est pour moi une série au-dessus. Je pense qu'au même niveau, on a Ezel, on a Karadaye. Enfin, j'en parlerai dans les prochains épisodes. En tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le pseudo LindaZRK et sur Instagram aussi avec le pseudo LindaZRK. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. Je suis vraiment curieuse de pouvoir en discuter avec vous. N'hésitez pas à me contacter, on pourra en discuter, etc., etc. Et alors, vous pouvez retrouver Marachelet aussi tous les lundis, excusez-moi, tous les lundis à 20h sur ATV, heure européenne. Voilà. Görüşürüz!